France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Ludovic Tézier. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Cooties de Schoolboy Q. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à la médiathèque Elsa Triolet de Bobigny pour nous faire découvrir le festival littéraire Hors Limite. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Bonsoir Ludovic Tézier.
Bonsoir.
Vous tenez le rôle-titre de Simon Boccanegra de Verdi jusqu'au 3 avril à l'Opéra de Paris, dans sa salle de Bastille, sous la direction de Thomas Engelbrock, mise en scène Calixto Bietto. On parlera bien sûr de la reprise de cette production, mais aussi pour nous l'occasion de vous recevoir pour revenir sur quelques moments importants de ce beau parcours, pour revenir sur l'origine de la vocation, les rencontres marquantes, votre façon de pratiquer votre art, alors dire que vous êtes né à Marseille, mère au foyer, père ayant commencé très tôt à travailler à 13 ans, mais qui passera son bac à 36 ans, pour dire que c'est un homme vraiment avec beaucoup de volonté, de curiosité, grand mélomane. Alors à la maison, la musique passée par les disques notamment, il y a ces fameux enregistrements de Faust avec Boris Christophe qui vous marque, mais il y a aussi la radio, notamment France Musique, bien sûr. À 9 ans, vous recevez comme cadeau le double vinyle des ouvertures de Wagner. Puis, en vrai, avec votre père, alors tout d'abord, je crois quand même, une représentation de La Veuve Joyeuse, un soir de Saint-Sylvestre.
Très juste.
Et puis, pour votre raison, un billet, là, on est aussi à l'Opéra de Marseille, premier balcon, face à la Seine, pour une production de Parsifal de Wagner. Vous ne connaissiez que l'ouverture, quasiment, forcément, Ludovic Tézier, mais pas vraiment ce qui suivait. Quel souvenir vous gardez de cette soirée?
Ça a été très court.
Les 5 heures sont passées très vite.
C'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que je suis parti sur, effectivement, l'ouverture. Bon, on peut comprendre pourquoi, c'est quand même juste sublime. Mais après, j'ai évité de lire l'avant-scène ou je ne sais pas quoi. Donc je suis allé un petit peu les mains dans les poches sur mes acquis de chrétien de Troyes, enfin voilà. Et j'ai quand même pas découvert que l'œuvre était en allemand, mais enfin, voilà. On va dire que mon allemand était assez approximatif à 13-14 ans. J'ai eu un tel climat dans cette œuvre que oui, lorsqu'on m'a dit que c'était plus un entracte mais que c'était la fin, j'ai pas compris. Parce que pour moi, j'avais passé deux heures et demie dans la salle et en fait, non, je venais de passer plus de 5 heures. Un ravissement, c'est un très joli mot. Oui, j'ai été ravi au sens où j'ai été emporté. J'ai été enlevé par cette musique et je ne suis, avis aux amateurs, toujours pas redescendu. Ne me tirez pas par les pieds, je suis bien où je suis.
Ouais, vous êtes très bien et puis d'autant mieux que vient de sortir chez Sony Classical de Parsifal que vous avez enregistré en live à Vienne en 2001 avec votre camarade Jonas Kaufmann, on en reparlera tout à l'heure, avec Philippe Jordan et le chœur et l'orchestre du Wiener Staatsoper. Ce disque-là, du coup, est-ce qu'il a une place spéciale dans votre cœur?
Ah oui, pour des tas de raisons. D'abord, bon, pour la raison qu'on vient d'évoquer, on ne revient pas de Parsifal lorsqu'on y a été, et j'y ai été. Mais c'était un Parsifal très particulier. Il faut se souvenir en deux mots que c'était pendant un des derniers lockdowns, comme on dit en Auvergne centrale, dans bon français. Et on a joué en fait ce Parsifal, on l'a donné, et vraiment joué, puisque c'était aussi diffusé visuellement, là, au cinéma ou à la télé. On l'a joué devant une salle absolument vide. Alors bon, on n'était pas les seuls à faire ça à l'époque, malheureusement. Enfin, Parsifal, c'est quand même une aventure très particulière. Comme on dit, c'est plus de 5 heures de musique, c'est une implication scénique extrêmement intense, et avec un orchestre phénoménal, très nombreux, très puissant. Et tout ça devant une salle vide, je dois dire que ça laissait une impression très curieuse, pas mauvaise au sens propre, mais très étrange et qui était très propice à la méditation, en tous les cas pour nous qui étions en scène à ce moment-là. Et la séance d'applaudissements avec les saluts devant l'œil de la caméra, voilà, je me souviens m'être fait la réflexion lors de ces saluts, on peut dire, on est là. on y est quand même, on est quand même là, et c'était assez important à l'époque. Hommage rendu d'ailleurs à la direction de l'Opéra de Vienne de l'époque, qui a quand même osé à finalement réaliser ce projet de Parsifal, qui est quand même, je veux dire, qui est indispensable. Je crois qu'il n'y a que pendant la guerre où on n'a pas donné de Parsifal à l'Opéra de Vienne, en tout cas pas chaque année. Là, il fallait le donner. C'est un marqueur, c'est un témoignage d'une époque aussi, d'un moment dans l'histoire aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, parce qu'elle est assez amusante quand même, il faut sourire un petit peu. Mon épouse Cassandre et Aurélien avaient réussi à se glisser, ce qui est absolument interdit, au fond de loge, histoire de quand même écouter cette chose extraordinaire qui était cet orchestre avec Philippe Jordan qui dirigeait, qui donnait ses premières notes depuis des semaines dans la fosse du Staatsoper. Et là, vous avez évidemment donc, cette fameuse ouverture, cet accord qui se pose au début avec, bon, vous imaginez le niveau musical et en plus d'appétit de cet orchestre. Et c'était fulgurant. Et étant resté bien au-delà de l'ouverture, Cassandre, en fait, est sorti et m'a dit, mais il faut que vous enregistrez ça, c'est pas possible, quoi, parce que c'est exceptionnel. Et donc, en fait, l'idée est partie de là. On a parlé après avec les collègues, on a parlé avec Bogdan Rochich, le directeur, donc, il me dit, oui, c'est compliqué, parce que l'opéra de Vienne, enfin, l'orchestre de Wiener Philharmoniker, c'est quand même très cher, etc., etc. Enfin, toutes des considérations, j'allais dire, presque logistiques. Et j'ai essayé de politiser, on va dire, la discussion, de expliquer que c'était important, etc. Et il est allé les voir, et il faut dire que le Wiener a joué le jeu. Ils ont compris, probablement, l'importance de ce geste, de ce moment-là. Et le disque audio, donc, est né de cet engagement total de tout le monde. Donc voilà, ça n'est plus un secret, je viens de le dire, mais je trouve que c'est une jolie histoire, c'est une histoire de passion, y compris entre mon épouse et moi, puisque...
c'est une histoire qui dure.
Voilà, et c'est génial, il y a un développement de cette histoire-là, et aujourd'hui on arrive à ce disque qui est donc mais particulièrement cher.
Et puis pour rester dans Wagner, dire, on l'a appris officiellement ce matin, que vous serez Wotan dans un peu moins d'un an, lors du Rhin, le début de la nouvelle production de la tétralogie du Ring à l'Opéra de Paris.
Oui.
Enthousiasme et appréhension ?
Non. L'appréhension, bon, oui et non. Je dirais, de toute façon, on se préparera comme à l'habitude au mieux possible. Et on essaiera de donner le meilleur de ce que nous sommes. Mais non, c'est juste extrêmement compliqué à travailler. Je veux dire, c'est pas que la musique du reste soit sérieuse ou que sais-je, mais le texte qui est un allemand très contourné, très compliqué, c'est juste extrêmement difficile à mémoriser. En dehors de ça, c'est extrêmement passionnant. Et pour le coup, la passion, j'allais dire, facilite le travail aussi. Donc l'un dans l'autre.
C'est pas le plus mauvais rôle. Je sais pas si on a des mauvais d'ailleurs dans ce tour.
Non, mais... c'est vraiment extraordinaire.
C'est vraiment extraordinaire.
Et très très. En fait, là aussi, comme d'autres rôles, en ce moment par exemple à la Bastille, c'est un rôle qui requiert énormément de couleurs et d'être très versatile dans sa manière de dire les choses, de les chanter. Et je dois dire que c'est quelque chose que j'affectionne.
Alors, je reviens quand même à l'enfance après ce long détour, même si vous chantez chez vous en écoutant des disques, notamment un récital de Franco Corelli, vous imaginez pas encore ce que vous réserve le destin, la force du destin. Puis Bac en poche, donc vous rentrez à la fac d'économie de Marseille, mais cette faculté, elle est dans le même bâtiment que le CNIPAL, centre de formation pour les jeunes artistes lyriques. Alors vous les retrouvez au bistrot du coin, et ça devient quand même, j'imagine, un peu insupportable. Et vous vous dites, bon, il faut que je change d'endroit dans le bâtiment, ça se passe comme ça.
C'est une cour, en fait. C'est assez rigolo, parce que, évidemment, j'avais des camarades dans l'amphithéâtre de la fac d'éco. Et à Marseille, et en particulier à l'époque, bon, il faisait déjà chaud, mais surtout on n'avait pas de clim. Donc en fait, lorsque les beaux jours arrivaient, on ouvrait les fenêtres de cet amphithéâtre, qui donnait donc sur la fameuse cour commune, et les chanteurs et chanteuses faisaient pareil de l'autre côté. Donc grosso modo, on suivait les cours d'économie, c'était intéressant. Friedman, Keynes sur la Traviata, en fond, c'était assez curieux.
Peut-être une nouvelle pédagogie à inventer.
Ah ben, il y avait quelque chose assez, finalement, assez relax. Et la chose assez amusante, c'est que mes collègues, eux, n'ont pas eu l'idée ou les moyens de franchir la cour, en tout cas dans ce sens-là. Et donc l'année suivante, ils entendaient leur ancien camarade d'écho
dans la classe de
chanter, voilà, c'était quand même assez particulier, donc c'était très sympa, oui.
Avec une première rencontre marquante, celle de Claudine Duprat, qui est une de vos professeurs au CNIPAL, qui vous ouvre la boîte à outils, hein, vous l'avez expliqué, Ludovic Tézier, vous apprend la technique du chant classique, et elle vous dit, un jour, qu'elle n'a plus rien à vous apprendre, et qu'il faut que vous alliez vous perfectionner avec d'autres, qui est quand même une attitude rare, qui en dit non sur cette femme.
Extrêmement rare, une femme d'une générosité à peu près unique dans ce que j'ai pu rencontrer. Et oui, effectivement, les professeurs de chant, et d'ailleurs, je ne jette pas du tout la pierre de ça, parce que c'est presque rentré dans le langage commun, c'est mon élève. Mmh. Claudine n'a jamais dit c'est mon élève. Mmh. Ça signifie tout. Mmh. Et elle aurait sans doute eu beaucoup d'autres choses à m'apprendre, parce que c'est une chanteuse qui avait un outil et une manière de gérer sa voix qui était formidable, vraiment. Je peux le dire encore aujourd'hui, j'en ai rencontré d'autres depuis tout de même. Mais il y avait une volonté chez elle de m'envoyer loin. Mmh. Et ce que devraient faire, je trouve, la plupart des profs ou des parents, enfin tous les gens qui sont en charge de développer un individu ou l'instrument. Et c'est ce qu'elle a fait le plus vite possible. Et sa manière de dire maintenant, en fait, tu dois utiliser ce que je t'ai appris, tu dois rencontrer des chefs de chant, tu dois avancer. Et bon voyage. Et ça, ça fait partie des nombreuses chances que j'ai eues dans ma vie.
Ouais, c'est pour ça que je voulais citer ce nom de Claudine Duprat. Ouais. Et puis donc, vous voilà donc Ludovic Tézier à l'École d'art lyrique de l'Opéra de Paris, dirigé à ce moment-là par Michel Sénéchal. Et on va l'écouter, Michel Sénéchal, sur France Musique, c'était en 2007, au micro de Gaël Le Gallic.
Quand j'ai débuté le chant, c'est-à-dire en 1945, tout de suite après la guerre, j'ai toujours eu l'idée que j'enseignerai un jour. C'est-à-dire tout ce que j'ai appris depuis mes débuts, j'ai emmagasiné tout cela en me disant « Ah, c'est intéressant. Ah, ça, il faut que je le garde parce que quand j'aurai fini ma carrière, il faudra que je le donne, il faudra que je le transmette. »
C'est un art de transmettre, Michel Sénéchal.
Je crois qu'il faut avoir le goût du contact humain. On n'enseigne pas le chant comme on enseigne les mathématiques. Le professeur de chant travaille d'une façon abstraite. Le chant, c'est une question de sensation qu'il s'agit de développer chez l'élève avec un contact très étroit. Par conséquent, il faut d'abord que l'élève chanteur ait une confiance totale entre la personne qui enseigne et lui-même. Car pour enseigner le chant, on travaille non seulement avec le corps, avec tout ce qui est physique, la respiration, le jeu des muscles, mais aussi avec le cœur. Donc vous voyez que c'est un enseignement qui va très très loin, qui va extrêmement loin. Il doit y avoir toujours, pour que l'enseignement du maître porte ses fruits, il doit y avoir une osmose entre l'élève et le professeur. Il y a un contact extrêmement étroit qu'il faut admettre.
Alors, quelle place est-ce qu'il occupe, Michel Sénéchal, dans votre formation, Ludovic Tézier ?
Très émouvant d'entendre Michel, là, quand même. Hein. Mmh. Moi, j'ai passé de longues heures à étudier à l'époque. L'école d'art lyrique, comme ça s'appelait à l'époque, venait d'emménager dans le studio Bastille, c'est la première année, après avoir quitté l'opéra comique. Et il est passionnant, cet homme, quand il parle.
Oui, tout ce qu'il dit.
Voilà. Et moi, j'ai eu ça pendant un an.
C'est pas mal.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois.
Et donc, si vous voulez, on a beaucoup travaillé, beaucoup le style notamment, parce que la technique... C'était déjà extrêmement instinctif chez moi. C'était plus un accompagnement qu'un enseignement technique pour ce qui me concerne. Par contre, il y avait une finesse d'analyse et dans la préparation d'un rôle. Par exemple, je me souviens qu'à l'époque, je préparais, sans du reste avoir quoi, quelques contrats que ce soit, alors que c'est le rôle qui finalement m'a fait débuter. C'est amusant, les choses. Mais je préparais par goût le rôle de Don Giovanni.
Ah oui.
Et il y a un génie de l'interprétation qui t'écoute et qui te donne des tuyaux, des choses, et qui te fait comprendre que non, là tu te trompes, là il faut chuchoter ça, pourquoi est-ce que tu l'écris à ce moment-là ou autre. Et donc qui t'ouvre, c'est très juste, plus que ce qu'il ne guide, qui t'ouvre au goût. d'analyser une partition et de se poser et de dire « Mais attends, en fait, là, c'est idiot. Tout le monde crie cette note-là ou cette phrase alors que c'est juste un contresens et musical et théâtral. » Voilà, pour schématiser un petit peu la collaboration. Et effectivement, avec ajouter à ça une bienveillance de tous les instants de chacun d'entre nous. C'était un bonheur d'arriver en classe avec Michel. Parce que quand il parle de proximité et d'osmose, il y avait juste énormément d'amour, en fait. Il était heureux d'enseigner aux jeunes que nous étions. Et il était heureux qu'on progresse, qu'on partage avec lui. Je me souviens quand j'étais allé réaliser mon premier contrat, c'était en troupe à Lucerne en Suisse, il avait absolument tenu à regarder mon contrat, pas du tout pour savoir ce que j'allais gagner, mais pour voir en fait une chose qui était vraiment importante pour lui, c'est que tous les rôles devaient être inscrits dans le contrat, à la base, et tous les rôles, il y tenait beaucoup, devaient être en langue originale. Depuis, je comprends pourquoi, mais à l'époque, tu es un jeune chanteur, tu dis « j'aurais pas pensé à ça ». Et lui, non, était très très attentif à ça, il avait regardé ce contrat, il m'avait regardé, il m'avait dit « c'est bon, tu peux y aller, c'est formidable ». Et non, c'est merveilleux de côtoyer des artistes pareils.
Alors, on va reparler en effet de l'importance de la langue. Vous évoquez Lucerne, effectivement, 2 saisons dans la troupe du Staatstheater, alors là, avec... Vous frôlez le burn-out à 22 ans, on veut dire 160 représentations sur les 2 saisons.
Oui, pas loin, peut-être un peu moins, oui, mais enfin... la 2e saison était, on va dire, plus légère. Il y avait peut-être que 60 représentations, mais la première, c'était dans les 80, ouais. Oui, plus les répétitions. Donc en fait, c'était trop. Mais en même temps, on apprend beaucoup. Et oui, c'était un peu au sens propre, marche ou crève, hein, parce qu'on peut y laisser plus que des plumes. On peut y laisser. L'envie, déjà, ce qui est important pour chanter, faut avoir du désir de chanter, faut pas être usé, et on peut y laisser des bouts de voix, bien sûr. Et en même temps, extrêmement passionnant, parce qu'au cœur d'un ensemble très talentueux, très jeune, la moyenne d'âge était peut-être 25-26 ans maximum, avec du grand répertoire, encore une fois en langue originale, donc bah, tu fais un Don Juan rôle-titre, première saison de chant quand même, en langue originale, bien sûr, avec une équipe formidable. Du reste, mon Leporello de l'époque, Julian Hartmann, est resté un de mes tout meilleurs amis aujourd'hui. C'est un Hollandais de Utrecht et on a gardé notre fraternité jusqu'à aujourd'hui. Et ça remonte quand même à un bon moment, quelque chose comme 35 ans ou 36, je ne sais pas.
À force.
Voilà. Et c'était une expérience qui aurait pu être destructrice et qui a été au contraire une formation implacable, mais extraordinaire.
Un rythme très soutenu. On ne va pas tout retracer, mais dire que, bien sûr, ensuite, il y aura l'Opéra de Lyon et puis le Capitole de Toulouse avec Nicolas Joël qui va jouer un rôle très important dans votre montée en puissance, Ludovic Tézier. Nicolas Joël, devenu patron de l'Opéra de Paris, il fera, bien sûr, appel à vous. Parcours riche de ces premières années, mais il serait quand même temps de vous entendre chanter. J'avais envie d'évoquer aussi une longue et belle amitié, celle qui vous lie au ténor Jonas Kaufmann depuis la production de Werther à l'Opéra de Paris en 2010. Vous avez enregistré ensemble un duo, Insieme, qui est apparu à l'automne 2022. On vous écoute tous les deux, avant que vous nous parliez de lui, dans un extrait de La Forza del Destino de Verdi.
Solenne in quest'ora giurarmi dovete far pago un mio voto. Lo giuro, lo giuro sul cuore cercato. Fino all'onore
Ensemble, c'est vrai que vous êtes pas mal ensemble, Jonas Kaufmann et vous, Ludovic Tézier. On va reparler de Jonas Kaufmann et de vous, bien sûr, mais sur ce qui fait de vous le grand interprète que vous êtes, pour rester un instant sur la dimension alors, technique, qui doit être liée à la dimension sensible, hein, je crois qu'on l'a entendu, mais sur ces points, on va écouter tout d'abord, je crois, un de vos modèles, Robert Massard, au micro de Benoît Duterte, c'était sur France Musique en 2007.
Quand je fais travailler des jeunes, ils écourtent les notes. Uh-uh. Une note, si elle prend de temps, il faut pas tout de suite arriver sur la note. Uh-uh. Il s'agit de que la note soit bien prise par le texte et pas écourtée. Si vous arrivez tout de suite, la façon de prendre une note vous permet justement d'amener ce côté violoncelle. Nous sommes des violoncelles, il ne faut pas l'oublier. La voix, c'est un instrument, ce n'est pas simplement la voix. La voix pour la voix, ça ne me dit rien. La plus belle voix du monde, s'il n'y a que la voix, cinq minutes après, je dis bon, ça suffit. Alors que des interprètes avec des voix peut-être un peu moins belles arrivent à tirer la quintessence par l'interprétation.
Mais aujourd'hui, cette présence du texte dans le chant, elle s'est un petit peu altérée.
Mais forcément, parce que personne ne fait l'effort. Ça, c'est comme, vous entendez les comédiens, bon, ils boulent, je ne comprends rien. Bon, ouais. le chant, c'est la même chose. Il faut, c'est un petit peu s'attarder sur les notes. Sans mauvais goût, sans ascenseur, pas les prendre en dessous, parce que ça, c'est très mauvais. C'est une question de goût aussi. Il y a des gens qui ont du goût, il y en a qui n'en ont pas.
On a compris de quel côté est situé Robert Massard. Mais la question de la diction, Ludovic Tézier, c'est une question importante. Alors, plus importante sans doute hors de France que dans d'autres pays, même si les choses changent. Mm-hmm. Et ça me permet de revenir sur le cas Jonas Kaufmann, mais et sur le vôtre aussi, parce que c'est la maîtrise des langues aussi qui fait quand même les chanteurs modernes que vous êtes, vous et lui.
Oui, c'est très juste. J'entendais encore Robert. Je me faisais la réflexion très rugbystique. Le palois est rugueux.
C'est vrai.
Mais j'adore. Il a raison. Ouais. Je suis désolé. Ce qu'il dit, il parle d'or, hein, avec sa belle voix. Pour revenir à la question. Aujourd'hui,
chanter dans la langue.
Oui, il faut chanter dans la langue.
Mais il faut bien la pratiquer.
Alors, il faut bien la pratiquer parce que sinon, il vaut mieux chanter dans sa propre langue, c'est clair. Mmh. Parce que il y a une musicalité propre et une couleur propre à chaque langue. Donc, il faut aller parler une langue avant de la chanter, ne serait-ce qu'un peu pour toucher l'instrument qui est une langue. C'est aussi un instrument qu'on peut manipuler, on peut jouer avec, on peut utiliser toutes les couleurs d'une langue si on la pratique un petit peu. Et forcément, juste se dire une chose très bête. Et lorsqu'un compositeur, quel qu'il soit, Wagner, Verdi, que vous voudrez, ou Massenet, ils ont composé en entendant un texte dans une langue. Ils l'ont entendu de la manière propre à cette langue. Et donc on ne peut pas s'approcher de ce que, et c'est notre boulot, de ce qu'a pu imaginer un Verdi ou un Wagner ou un Massenet, si on n'a pas la conscience d'une langue, si on n'a pas une manière de la dire qui se rapproche idéalement de ce qu'a pu entendre dans sa tête un Verdi, un Wagner, un Massenet. Donc c'est très important de la pratiquer, de bien la dire, et ensuite, c'est le but ultime, de la ressentir, pour donner vraiment quelque chose de... Voilà, toujours pareil, qui cette espèce de quête infinie de d'interpréter au plus près ce qu'a pu imaginer un génie tel qu'on vient de les nommer.
Ah, mais pour rester sur cette question-là et sur cette sensibilité qu'évoquait aussi Robert Massat, il y a cette question du travail personnel, on va y revenir dans un instant, mais il y a aussi ce que les chanteurs apprennent au contact de tel ou tel metteur ou metteuse en scène. Je n'ai pas cité Jean-Claude Auvray qui a été important à vos débuts à Lucerne pour savoir comment on se tient sur une scène, mais il y a eu aussi une belle, très belle rencontre avec Jean-Pierre Vincent, qui nous a dirigé tout jeune, à peine arrivé à Lyon, dans le rôle du comte des Noces de Figaro. C'est un artiste qui nous manque aujourd'hui, mais beaucoup. Qui vous a amené quoi à vous, Ludovic Thésier?
Pour faire le lien avec ce dont on parlait il y a environ 30 secondes, lorsque Jean-Pierre Vincent est arrivé à Lyon pour mettre en scène les Noces de Figaro, qui était un écho à son mariage de Figaro légendaire, il s'est mis à l'italien. C'est-à-dire qu'il s'est mis à parler italien, et il parlait parfaitement italien. Il s'est formé en italien pour pouvoir aborder un texte tel qu'il avait été retranscrit, traduit ou interprété par Da Ponte et Mozart, au-delà de ça, de par la musique. Et du reste, comme tout acteur à l'ancienne, il savait aussi chanter, ou au moins chantonner. Donc il était tout à fait capable, lorsqu'il nous demandait de reprendre à tel endroit, de chantonner la ligne musicale de tel ou tel rôle, dans un italien impeccable. Voilà. Là, forcément, à partir de là, lorsque la même personne vous dit « Non, ce que tu fais là, c'est pas bien », on a tendance à écouter. Parce qu'on se dit « Bon, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement élevé dans la conscience professionnelle et dans le talent, le génie ». Et là aussi, c'est un mot qui revient assez souvent dans ce que j'aime chez les gens, c'est la bienveillance. Moi, j'étais un artiste qui avait été, on va dire, dégauchi à Lucerne, notamment avec donc Jean-Claude Auvray, qui est un metteur en scène de grande tradition, et qui a su me donner, j'allais dire, un petit peu les premières manières de se tenir en scène, de rentrer, voilà. Et c'est vrai que du coup, je suis arrivé avec une certaine, là encore, une certaine boîte à outils, mais qui était, j'allais dire, disponible, mais pas encore parfaitement utilisée, loin de s'en faut, et du reste, on y travaille toujours. Et c'est vrai que Jean-Pierre a su prendre dans ça et tirer probablement ce que j'avais de meilleur à offrir à l'époque, avec le regard de quelqu'un qui est heureux de te transmettre et qui t'aide, qui est là pour te bonifier.
Puis je me dis qu'il y avait peut-être aussi quand même quelque chose dans les affinités extra-musicales avec Jean-Pierre Vincent, parce qu'il a eu lui aussi un parcours assez singulier. On va l'écouter un court extrait des émissions à voix nue sur France Culture, c'était en 94, Jean-Pierre Vincent.
Ma culture, elle était surtout cinématographique. J'allais 5 fois au cinéma par semaine. Burlesque. C'est-à-dire qu'il y avait Chaplin, Keaton, beaucoup. Le western, beaucoup. Les expressionnistes allemands. Eisenstein. Voilà, c'était ça à peu près. Wells. Et bizarrement aussi, des choses qui rejoignent Buster Keaton sur un autre mode, c'était le rugby. Le billard, c'est-à-dire une balistique. Où est la balle? Où sont les autres balles? Où sont les partenaires de la balle? Et je sais que je suis volontiers. Enfin, j'aime bien des spectacles où il y a beaucoup de monde sur le plateau parce que je n'aime pas me lancer dans la chorégraphie, mais j'aime bien la finir une fois qu'elle est commencée. Mais c'est la même chose qu'un match de rugby. C'est la même chose que l'évolution de boule de billard, c'est-à-dire de place stratégique par rapport à l'endroit central, à l'endroit où il se passe quelque chose de brûlant, et quels sont les différents degrés d'éloignement, les différentes façons d'être concernés autour de cet endroit brûlant où est la balle. Ça fait partie. Je me souviens ma première mise en scène professionnelle, qui était La Noce chez les Petits Bourgeois. J'ai mis une exposition dans le hall qui mélangeait les photos de répétition et les photos de matchs de rugby, et qui se ressemblaient extraordinairement dans mon premier spectacle.
Alors, un metteur en scène, Jean-Pierre Vincent, qui vous parle de rugby, Ludovic Thésier, ça pouvait que marcher entre vous.
Ouais, c'est tellement génial. Quand vous savez, on avait parlé à un moment donné, lors d'un All Black France, De l'essai du bout du monde. Mmh. Ça vous rappelle quelque chose ? Il faut le regarder, hein, c'est sur une plateforme que je ne citerai pas.
Vous avez raison.
Et il faut aller le regarder parce qu'en fait, c'est exactement ça. On crée les conditions pour que le miracle arrive. Chacun est à sa place, chacun joue sa partition, chacun est habité par ce qu'il a à faire, dire, ressentir. Donc ça, c'est le boulot et que Jean-Pierre faisait à la perfection. De sorte qu'on se retrouvait sur le terrain, pour filer la métaphore, et que la balle circulait entre nous de manière tout à fait naturelle, parce que elle était nécessaire. Parce que l'habitation, par le rôle de chacun d'entre nous, rendait la circulation de cette balle absolument nécessaire. Et donc ça se fait d'une manière totalement naturelle. Ça se fait aussi selon, j'allais dire, les conditions climatiques. C'est-à-dire que tous les soirs, elle ne circule pas exactement de la même manière, parce que nous ne sommes pas exactement les mêmes. Et donc ça rend la chose du complètement vivante, et à la fin, quand ça se passe bien, quand ça circule bien, ça devient l'essai du bout du monde.
Alors, il y a le cas particulier, effectivement, on rejoue pas on rejoue jamais le même match, mais quand on reprend une production, ce qui est le cas avec Simon Boccanegra de Verdi dans cette mise en scène de Calixto Bieto, vous l'avez créé en 2018, une reprise de Ludovic Tézier, ça nécessite quoi comme type de travail ?
Alors, une reprise, c'est compliqué, en fait, surtout quand c'est toi qui as créé ce rôle pour la première fois, parce que tu n'es plus le même. Entre-temps, ils sont passés 2018, 2025, c'est beaucoup de choses qui sont passées entre-temps, on va pas revenir sur l'histoire. Et le bonhomme a changé aussi.
Et la voix.
La voix aussi a changé. Et donc, il faut arriver à réactiver une case qui, elle, a pris un peu de retard, j'allais dire. Et à lui faire rattraper le temps perdu sur soi-même. Quoi. On n'est pas tout à fait en phase. Et c'est là où la personne, et là j'ai beaucoup de chance sur cette reprise, la personne qui est chargée de la reprise, qui est à les rendre pour ne pas le nommer, il rougira, c'est bien fait pour lui, que j'adore, et qui est un des grands pour moi, un des piliers de la maison, a une importance capitale, parce qu'il est chargé justement de rapprocher le Tézier du moment au Tézier de l'époque et de refaire Simon avec tout ça. Et là, on a affaire à un des très très grands professionnels que je salue et que j'adore. On a affaire à un des très grands professionnels du métier. Il n'est pas unique, mais ils sont très rares. Et c'est vrai que du coup, c'est extraordinaire parce qu'en fait, cette reprise se nourrit d'un parcours qui n'a pas existé et qui pourtant, grâce à lui, existe en fait, parce que on a construit l'échelon manquant entre le Simon de l'époque et celui d'aujourd'hui où la personne qui l'interprète a évolué. C'est un grand métier que de faire des reprises à ce niveau-là.
Mais le Simon Boccanegra en vous, Ludovic Tézier, comment est-ce qu'il a changé lui ? C'est pas le même que vous retrouvez ?
Non. En même temps, il y puise quand même ses racines, puisqu'à l'époque, c'était ma prise de rôle. Mais Simon, en plus, c'est quand même une œuvre qui est extrêmement et parfois sinistrement en écho, très résonante avec l'époque qu'on traverse. Il n'y a pas besoin d'aller trop chercher pour comprendre les coïncidences. On vit dans une époque qui est où malheureusement, on peut puiser très facilement pour enrichir ce personnage. J'aurais aimé devoir faire preuve de plus d'imagination, mais pour créer mon Simon Boccanegra, en ce moment, j'ai qu'à ouvrir les journaux et ça vient tout seul. Mais il a changé parce que j'ai changé, parce qu'évidemment, on est probablement plus mature, parce que la vie avance, parce qu'on a découvert d'autres choses, parce que d'autres rôles aussi sont passés entre-temps qui probablement ont fait évoluer la vocalité, la perception, et puis probablement une forme d'apaisement avec pas mal de choses qui font qu'on peut être encore plus disponible. C'est un mot que j'aime beaucoup. On parle quasiment de médiumnité, là, j'allais dire, c'est-à-dire d'être un médium, pas d'être voyant, mais d'être le médium, c'est-à-dire celui qui laisse passer l'inspiration et la musique, en l'occurrence. Donc, on est plus disponible à ça avec l'âge. Et c'est très bouleversant aussi, parce que parfois des choses échappent, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tout à coup, quelque chose sort qui passe à travers nous, beaucoup mieux qu'avant.
Alors pour le plaisir, on va écouter un extrait de cette production, c'est le tout titre de l'acte 3.
Pietoso
sospiro. Stringi il morente, il morente al cuore.
Un petit peu de temps, pas assez, mais on va entendre cette musique, parce qu'on a parlé de Vitesi, bien sûr, de Wagner, on a parlé bien sûr de Mozart, mais Verdi, bon, vous lui avez consacré un disque qui bougeait il y a 3 ans. C'est toujours une grande histoire d'amour avec ce compositeur, et puis il est sympa avec les barytons.
Oui.
Il est généreux.
Sympa, c'est quand même un peu père fouettard des fois, mais c'est un bon père quand même, parce que c'est quand même parfois compliqué, toujours très bien écrit en fait. Hein. C'est jamais piégeux. Surtout si tu respectes et le texte musical et le texte tout court. Là encore, il y a une telle adéquation entre la langue et la musique. Et il y a des clés à trouver dans la langue pour chanter cette musique. Énormément de clés.
Mais il les laisse visibles quand même, les clés, pour vous ?
Elles sont sous vos yeux dans la partition. Quoi faut-il lire la partition ? Et puis faire confiance à ce qu'il a écrit. Lorsqu'il écrit un O, on ne chante pas un OU. On ne chante pas un A. On chante un O. Voilà. Faut être un peu, pas oublier, Verdi, c'est un contadino, c'est un paysan, c'est quelqu'un qui a les pieds dans la terre, donc c'est quelqu'un qui est pas dans l'illusionnisme, dans le geste pour le geste, donc c'est quelqu'un qui est très très enraciné dans ce qu'il fait, très solide. Donc il faut être solide aussi. Après, je dois dire que oui, un amour profond pour ce vénérable, mais qui se creuse sans arrêt, parce qu'en fait, c'est sans fond, Verdi. Je n'arrive pas, c'est pas du tout une pirouette pour que ça fasse bien à la radio, mais je n'arrive pas à me lasser, c'est une chose, mais à comprendre, et plus j'avance, moins je comprends le miracle de cette musique, par exemple, et de la plupart de ces œuvres géniales. C'est très extraordinaire, on descend petit à petit, et on trouve toujours pas le sol, parce que c'est insondable.
Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que cette conclusion me laisse au bord de l'abîme merveilleux qui est celui de Verdi. Hein. Je rappelle donc ce disque paru il y a 3 ans, avec ses grands airs de nombreux opéras, mais pas de Simon Boccanegra dans ce disque-là.
Et pas d'air. Enfin, ouais, plutôt, ouais, il n'y a pas l'air. Il y a un air qui dure 2h30, oui, donc il aurait fallu un autre disque. Voilà.
Bon, j'espère que ça viendra au disque aussi un de ces jours. Pour l'heure, on peut vous voir et vous entendre sur la scène de l'Opéra Bastille dans ce rôle-titre de Simon Boccanegra jusqu'au 3 avril. C'est sous la direction de Thomas Engelbrock et dans une mise en scène de Calixto Bieto. Puis il y aura bien d'autres occasions de vous retrouver. Vous allez travailler votre allemand médiéval.
J'y retourne.
Merci Ludovic Tézier.
Merci, bonne soirée.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Contrairement à certaines idées reçues, l'industrie du rap regorge d'histoires de coopération et d'entraide. Celle de Black Hippie en est une. Dans le giron du label indépendant Top Dog Entertainment, basé à Carson en Californie, quatre jeunes rappeurs de la côte ouest forment un groupe afin de donner de l'élan à leur carrière. Ils s'appellent Absol, J-Rock, Schoolboy Q et Kendrick Lamar. Sans jamais sortir d'album, le collectif a servi, au gré des collaborations, les carrières solo de ses membres. Si celle de Kendrick Lamar s'est rapidement envolée avec le classique Good Kid, Mad City, celle de Schoolboy Q n'est pas en reste avec 6 albums. Dans le dernier, Blue Lips vient de sortir, il a imposé un style tranchant, inspiré par ses modèles de la côte Est, Nas, Jay-Z ou 50 Cent. Sur Blue Lips, il alterne entre morceaux décapants et introspectifs avec une large palette technique et un sens aigu du storytelling. Ne campant ni la figure du sage ni celle de l'imprudent, il se livre sur ses erreurs personnelles et ses inquiétudes. Le morceau Cooties, qui aborde les fusillades de masse, en est un digne échantillon. C'est notre son du jour.
Oh, hell yeah. And it's a new celebration of this groovy, better living, lifestyles of this old world. Yeah, baby. Fancy. Oh, the cooties, they're coming to get me, running, touched by the unloyal. Trust, I had to shower for years, living in fear. I know the feeling of being trapped from all the things that you build. Pages I filled, keep turning my skills. From start to fin, I can better my wheels. Like, literally, my daughters is chill. Like, I can't believe my house on the hills. Like, I can't believe that mountain is real. Accountant is thrilled, the scars on the back of me healed. Why God bless me, I never deserved it. Follow my purpose, they put the blinds down, I open the curtains. Shine on me perfect, lottery purchase. Nigga, I can vacate here. My big ass kitchen, a runway here. My kids playing soccer, ain't shitting away. Ready, set, go, ain't losing a race. My house smell like ganja. Fuck your kids, I'm dealing with problems. Finishing albums, freaking and styling. Teaching and smiling, learning and counting. Mass shootings, when will they stop it? Another kid gone for unlimited profits. Rather keep my kid home before you fuck up the process. I'd rather die and lose it all before they don't get the knowledge. I'd rather die and lose it all before I turn on my partners. It's easy like Compton. Unlimited options, scheming and plotting. I really do magic. Boy, you only get your gifts to your habits. That nigga's a hazard. Look at him crashing. Ball like a maverick. Now why would you hate me? Bitch ass nigga, hoe ass nigga, trick ass hoes, jealous ass, envy old. Fuck ass nigga, I'm fully embedded, still building up leverage. I'm known in Wisconsin and really from over, but Fig do it better. The best of my era, that's me in the mirrors. Yeah. All my life I want the front page. 99 bitches in the driveway. These chum niggas getting served by the day. Everything I wanted right in place. 99 bitches in the driveway.
C'était Cooties de Schoolboy Q, extrait de son nouvel album Blue Lips.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je viens d'arriver à Bobigny pour la 15e édition du festival Hors Limite, le festival littéraire qui se déploie pendant 15 jours, donc cette année jusqu'au 30 mars. Dans toutes les bibliothèques de la Seine-Saint-Denis. Me voilà donc devant la bibliothèque Elsa Triolet, et c'est l'autrice, critique et traductrice Hélène Frappa qui est à l'honneur, et un peu Alfred Hitchcock aussi.
Je m'appelle Hélène Frappa et je suis écrivaine.
Et on se retrouve ici à la médiathèque Elsa Triolet à Bobigny, mais pourquoi vous êtes là ?
Alors je suis là d'abord, j'ai un lien fort avec Bobigny où j'ai beaucoup tourné comme écrivaine, et notamment il y a 2 ans j'ai eu une résidence d'écrivain pendant 1 an dans une école primaire qui a été une des plus belles résidences que j'ai faites. Donc c'est une ville que je connais assez bien.
Et là, ce soir, donc, vous allez présenter quelque chose dans le cadre du Festival Hors Limite ?
Alors, comme souvent avec Hors Limite, en tout cas comme souvent quand j'ai eu la chance d'y être invitée, c'est une manière de mêler à la fois le cinéma et la littérature, ce qui est le cas du livre dont je vais parler principalement, qui est sur le gaslighting, donc qui part du film de Cukor, mais qui met en scène plein de films, notamment Une femme disparaît d'Alfred Hitchcock, que je présente donc ce soir avant d'avoir une discussion avec la salle et avec les organisatrices.
Alors avant de rentrer dans la salle de cinéma et d'écouter votre présentation, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est ce concept-là en quelques mots ?
Le gaslighting, c'est une manière très efficace pour faire disparaître une femme en lui disant qu'elle n'a jamais existé, en prétendant qu'elle est folle, en l'épousant, ce qui peut être une manière assez efficace aussi de la faire disparaître. Et toutes ces manières-là, finalement, combinent à la fois une disparition et donc une destruction et une négation. C'est ce qu'on voit dans Une femme disparaisse, où une vieille espionne va être supprimée de la circulation par des nazis et des fascistes. Ça se passe en 1938. Et une fois qu'elle a disparu, ils diront qu'elle n'a jamais existé. C'est un des films sur lesquels mon livre va reposer pour analyser cette notion de gaslighting qui vient, elle, du film de Georges Cukor, 1944, Gaslight Hantise en français.
Alors, vous avez déjà participé au Festival Hors Limite. Est-ce que vous pourriez nous dire votre sensation ? Comment vous ressentez ce festival et son utilité dans la grande famille des festivals que l'on a en Ile-de-France ?
Moi, j'adore le festival Hors Limite, c'est un très beau nom d'ailleurs. Mais je pense aussi à la manière dont beaucoup d'élus, pas seulement à Bobigny, mais à La Courneuve, à Saint-Denis, moi j'ai vraiment travaillé dans plein d'endroits, à Saint-Ouen, font intervenir des écrivains, enfin donnent aux auteurs, je dirais plutôt le mot auteur, un rôle en fait social, un rôle politique, hein, puisque être un auteur, c'est avoir une autorisation de parler, son vieux sens romain, juridique, et puis peut-être aussi être celui qui peut donner l'autorisation, être celui qui va travailler avec des êtres humains pour les aider à aussi s'emparer de cette autorisation pour parler, pour écrire. Donc c'est très important.
Alors je m'appelle Ariane Mestre et je suis directrice par intérim et programmatrice de l'écran nomade de Bobigny.
Et quel est votre objectif ?
En fait, de pérenniser une activité cinématographique à Bobigny depuis la fermeture de l'ancien cinéma et en attendant l'ouverture du futur cinéma qui s'appellera Alice Guy et qui ouvrira en 2025.
Alors là, on est à la médiathèque ici à Bobigny. Donc c'est l'écran nomade qui propose la projection de ce soir ?
C'est ça, en fait. Dans le cadre de l'écran nomade, en fait, on fait des programmations différentes dans différents lieux de la ville, notamment le conservatoire Jean Wiener, la Bourse du Travail, qui sont les deux lieux principaux dans lesquels on intervient plusieurs fois par semaine. Dans le cadre du festival Hors Limite, on fait une entorse pour montrer de la fiction et pour montrer Une femme disparaît d'Hitchcock. Voilà.
Présentée par Hélène Trappa ce soir.
Exactement, voilà.
Merci beaucoup.
Bon, bah, Bonsoir. Donc, une fois n'est pas coutume, on est ravis de vous accueillir ce soir à la médiathèque, non pas pour une soirée documentaire comme on a l'habitude d'en proposer, mais pour faire une entorse à notre règlement intérieur nomade et montrer un film de fiction. Et dans le cadre du festival Hors Limite, festival de littérature qui se déploie dans de nombreuses médiathèques du département jusqu'au 30 mars. Nous, ce soir, on a décidé de travailler et de vous proposer une séance autour d'un livre qui est paru aux éditions de l'Observatoire il y a quelques mois, qui s'appelle « Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes » d'Hélène Frappa, qui est ici, qui nous fait l'honneur de sa présence.
Merci, Ariane. Je dirais pour commencer que quand une femme disparaît, ce sont toutes les femmes qui disparaissent. Ce qui me fait penser, c'est peut-être même pour ça qu'il y a une condition féminine, alors que je pense que quand un homme disparaît, pas tous les hommes qui disparaissent, ça fait une grande différence en fait. Cette vieille dame qui va jouer le rôle de témoin, qui va être celle par laquelle la disparition advient dans Une femme disparaît, et celle par laquelle la disparition va être évitée dans Gaslight, hein, cette vieille dame qui a tous les attributs des vieilles dames, tous ces attributs socialement condamnés qui sont une pipelette, elle parle beaucoup, à tort et à travers. Elle a l'air un peu étourdie, elle a l'air un peu dingue, elle fourre son nez partout, elle est curieuse. Tous ces attributs, peu à peu, dont on va voir que ce sont, en fait, très littéralement, des armes de survie contre une menace très concrète, très précise, qui est une menace intime, individuelle, et puis une menace historique et politique.
Alors, personne ?
Non, personne.
Les seules choses que j'ai vues de mon côté, ce sont deux plures d'orange et un sac de papier gras.
Je sais qu'il y a une Miss Roy, elle est aussi réelle que vous et moi.
Mais c'est ce que vous dites et vous en êtes persuadée, mais vous semblez bien être la seule à l'avoir vue.
Je l'ai vue, je crois. C'est vrai ? Oui, une petite femme en tweed.
Oui ?
Avec une veste trois quarts et une...
Et une écharpe ?
Exactement, elle était avec vous quand vous êtes passée devant le compartiment.
Je savais bien que j'avais raison. Votre mari a dit le contraire.
Oh, c'est quelqu'un de distrait, mais moi, dès qu'il me l'a dit, je m'en suis tout de suite souvenue.
Je m'appelle Hélène Loupias, je suis chargée de coordination de projet à l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis qui porte le festival Hors Limite. C'est un festival qui a lieu tous les ans dans les médiathèques du 93 et dans des lieux partenaires qui existent depuis 15 ans. C'est un festival qui se construit avec l'appui des bibliothécaires puisque c'est vraiment de la co-organisation de festival. L'association est force de proposition pour certains auteurs, mais vraiment l'idée c'est vraiment de co-construire avec les médiathèques autour d'un projet particulier.
Quand on regarde votre programme, pourtant, ce serait réducteur de dire que ce n'est qu'un festival littéraire. C'est un festival littéraire avec des frontières élargies, non ?
Oui, tout à fait. On utilise ce que fait la littérature aujourd'hui sous sa forme multiple, à savoir lecture musicale, performance, atelier jeunesse. Voilà, il y a plein de façons d'aborder la littérature aujourd'hui et on essaye d'avoir ce prisme-là au niveau du festival.
Quand on s'appelle Hors Limite, ça ouvre tout de suite un champ d'imaginaire. Pourquoi ce nom a été choisi pour ce festival ?
Alors ça, c'est une vieille histoire, Hors Limite, ben justement pour dépasser les frontières. Puis ça a une valeur au niveau de la Seine-Saint-Denis aussi, l'histoire de sortir du 93. C'est aussi explorer l'imaginaire, aller au-delà du département amener la littérature générale, faire découvrir la littérature générale et une certaine littérature à des gens qui puissent s'évader.
Bonjour, donc je m'appelle Lucie Neba et je suis bibliothécaire à la bibliothèque Elsa Triolet de Bobigny.
Et la bibliothèque Elsa Triolet de Bobigny participe au festival Hors Limite. Nous nous y trouvons là ce soir à l'issue de la projection présentée par Hélène Frappa du film d'Hitchcock. Vous allez animer le débat, c'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce que vous allez faire en fait ?
Oui, on va faire... on parle de médiation. Donc on va discuter ensemble du dernier livre d'Hélène Frappa, qui est son essai sur le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Et donc c'est un livre qu'on a vraiment beaucoup aimé ici dans l'équipe de la bibliothèque, qu'on avait envie de porter et de faire découvrir à notre public, à tous les gens, à nos lectrices, nos lecteurs. Quand nous, c'est des livres qu'on a aimés et qu'on a envie de défendre, on voit que quand on en parle aux gens, souvent ça leur donne envie aussi de venir. Hein. Et c'est ça qui est intéressant avec le festival, c'est comme c'est les bibliothécaires qui choisissent les personnes, les auteurs, les autrices qui sont invités, c'est vraiment des coups de cœur, des personnes qu'on a envie de mettre en avant. Et du coup, ça donne envie de venir les voir aussi.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je serai au FRAC d'Amiens dans le cadre du Printemps du Dessin.
Merci Marie et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.